L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne l'AGT du local autour de l'actualité mayonnaise sur l'autre radio. Je suis aujourd'hui en compagnie de Claire. Salut Claire.
Salut Marie, salut tout le monde, comment ça va? Ben moi ça va très bien. Il fait un temps un peu particulier, des fois un peu beau, des fois un peu moins beau, mais bon, il y a un peu de soleil, ça fait plaisir.
L'été va arriver, moi j'y crois. C'est que j'étais très dubitative sur le soleil en regardant la fenêtre. Mais pourquoi pas, peut-être. C'est très localisé. Donc on verra.
On garde espoir en fait.
Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes donc le mardi 25 mai et on va parler justement, on va s'avancer un petit peu pour le mois de juin. On espère qu'il fera plus beau pour l'étape du Tour de France. La cinquième sera en Mayenne, vous le savez. Il y aura des invités un peu spéciaux, des célébrités qui vont venir faire le tour pour une bonne cause. Vous entendrez ça, ce sera donc le reportage de cette émission. Vous entendrez aussi ensuite, un conciliateur de justice à l'occasion de la Journée nationale de l'accès au droit ce 25 mai. Et puis, c'est le retour des chroniques des archives du studio vidéo de Laval avec Stéphane Pio. Claire, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut en dévoiler un petit peu?
Alors oui, alors j'essaie de pas trop en dire, mais ce sera sur le palais de l'industrie, un gros bâtiment qui a été démoli en 76. Donc voilà, peut-être un petit souvenir pour nos aînés qui nous écoutent.
Et puis d'autres qui sont peut-être un peu moins vieux aussi, qui ont quand même des souvenirs. 76, c'est pas si vieux. En tout cas, c'est à retrouver évidemment. Et à la fin de cette émission, on va commencer en tout cas un nouveau feuilleton autour du festival Les Trois Éléphants qui se maintient sous une autre forme à Laval. On commencera donc aujourd'hui avec un collectif d'éco qui a déjà une œuvre que vous pouvez voir dans les rues de Laval. Ça, ce sera en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, la situation des étudiants de Mayenne évoquée à l'Assemblée nationale.
Par le député Yannick Favennec ce matin, il a interpellé Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, l'occasion de mettre en lumière la situation des étudiants de la ville de Mayenne, qui suivent leurs études donc dans des lycées et n'ont pas accès au dispositif repas à 1 euro du CROUS et à d'autres services universitaires. Mais Frédérique Vidal a simplement rappelé que dans ces cas-là, la restauration relève des compétences de la région. Le député l'a invité à venir en Mayenne pour se rendre compte de ce que vivent ces jeunes.
Des capteurs de CO2 pour les prochaines élections en Mayenne.
Ils ont déjà été installés à l'occasion de la rentrée de mai dans les 41 collèges publics et privés du département pour contrôler la qualité de l'air dans les salles de classe. Ces 300 capteurs de CO2 sont mis à disposition des maires de la Mayenne par le conseil départemental à l'occasion des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin. Les maires qui souhaiteraient disposer de ces équipements peuvent envoyer un mail à capteurs-élections@lamayenne.fr avant le 3 juin.
Des nouveautés dans le dispositif de dépistage en Mayenne.
Le centre de dépistage mobile est aujourd'hui à Gré-en-Bouère sur la place de la pharmacie et demain mercredi à Chaillan, place de la mairie. Autre changement au niveau des horaires, ce jeudi à Château-Gontier à la Halle du Haut-Anjou, les tests seront proposés de midi à 19h. Des dépistages sont également prévus à Laval, à la salle du Palindrome, vendredi et samedi et ce mercredi à Saint-Berthevin.
Dans la région, 423 classes sont fermées à cause de la Covid-19.
Deux écoles et un collège, eux, ont complètement fermé. Pour au total, 615 cas détectés chez les élèves et 33 cas chez les personnels de l'éducation nationale. Du 10 au 17 mai, plus de 5600 tests salivaires ont été effectués dans les établissements. Seulement 0,15% d'entre eux ont été positifs.
Pas d'ouverture de commerce le dimanche en Mayenne.
Certains commerçants avaient fait cette demande pour écouler leur stock, plus important à cause du confinement. En accord avec les organisations de commerçants, la préfecture de la Mayenne a décidé d'autoriser une ouverture seulement le premier dimanche des soldes d'été, soldes prévus du 23 juin au 20 juillet.
La billetterie du Saint-Jean-d'été ouvre ce mardi.
Une formule spéciale là aussi pour ce festival d'été en configuration cabaret avec des tables et des chaises. L'entrée est gratuite chaque soir du 23 au 27 juin, mais sur réservation dès aujourd'hui sur le site unsaintjeanete.com. Au niveau de la programmation, le groupe Catastrophe ouvrira les festivités. Ensuite, il y aura Hervé, la révélation masculine des victoires de la musique 2021 et Kit Francescoli. Vous retrouverez aussi Glock, The Loire Valley Calypso et Glass Music qui était prévu dans la programmation justement de 2020.
appelle aux artistes pour célébrer l'innovation et la créativité en Mayenne.
Lancé par Laval Mayenne Technopole à l'occasion de ses 25 ans, un concours innover et réussir pour les artistes professionnels ou amateurs, originaires ou habitants en Mayenne, ou encore ayant un lien avec le département, vous voyez que ça peut concerner un panel assez large. Toutes les disciplines d'art plastique, art graphique, art appliqué et artisanat d'art sont les bienvenues. Vous avez jusqu'au 14 juin pour vous inscrire sur laval-technopole.fr.
Des élèves mayennais récompensés pour leur projet de mini-entreprise.
L'action éducative ligérienne Envie d'apprendre, envie de créer a réuni plus d'un millier de lycéens et d'apprentis de la région qui ont fait vivre leur propre entreprise pendant un ou deux ans. Le projet Reban du lycée professionnel Robert Buron de Laval a reçu le prix 100 000 entrepreneurs pour la conception de bancs artisanaux à destination du lycée mais aussi de plusieurs établissements scolaires africains. Le prix de la communication, lui, a été décerné aux élèves de l'Agricampus de Laval pour Aperitime, où là du coup il s'agit d'une gamme de produits apéritifs pour limiter le gaspillage alimentaire.
Réunion de championnes de judo dimanche à Château-Gontier.
Pour accompagner la préparation de Vanessa Mbala aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, était présente Cécile Nowak, la directrice technique nationale adjointe de la Fédération Française de Judo, également championne olympique à Barcelone en 1992. Elle était présente donc pour une séance de taïso de la gymnastique japonaise en plein air, c'était dimanche.
Thomas Veuclair, la navigatrice Sam Davis ou Claude de Koh-Lanta.
Avec d'autres célébrités, ils seront bientôt en Mayenne à l'occasion de l'étape du cœur. Ils parcourront le mercredi 30 juin la 5e étape du Tour de France entre Changé et Laval, le matin avant les coureurs. Une opération solidaire menée par l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle fait venir de pays étrangers des enfants qui ont une malformation cardiaque pour financer leur opération en France. Comment ? En misant notamment sur cette étape du cœur, explique le président de l'association Orso Chetoshin.
Sauver un enfant, opérer un enfant, ça coûte cher. C'est 12 000 euros, vous imaginez. Mais au regard de la vie d'un enfant, finalement, ça reste quelque chose d'assez accessible. Et sur le Tour de France, depuis 17 ans, on a déjà sauvé 321 enfants. On a une étape qui s'appelle l'étape du cœur, qui sera cette année en Mayenne, donc, qui consiste à faire une opération où il y a des célébrités qui vont venir, qui vont pédaler pour les couleurs de l'association. Mais surtout, on va faire des opérations où les entreprises vont pouvoir prendre des packs, inviter leurs collaborateurs ou inviter leurs clients à avoir une approche un peu VIP du Tour de France, rencontrer ces célébrités. Ici, on est à l'hippodrome, on va faire des baptêmes de road car et puis avoir un petit challenge entre une célébrité et une entreprise, parce qu'il faut rester dans l'esprit de la course. L'accès, évidemment, aux tribunes. Donc voilà, c'est des packs qui ont été créés. Et puis les entreprises peuvent créer des challenges aussi, ça existe, avec les départements, où tous ensemble, on va faire des challenges dans votre boîte, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, mais ça va se cumuler et tout ça va permettre de sauver des enfants. Donc voilà, on a vraiment besoin de tout le monde, on a besoin que chacun donne ce qu'il puisse donner. La célébrité, elle va venir avec son accès. Ici, on nous a proposé très gentiment des chevaux, des road cars, mais on a besoin aussi de tous, évidemment, et des entreprises qui vont nous permettre de financer l'opération de ces enfants. On a prévu d'en sauver 7, parce qu'il y a 7 lettres dans Mayenne. Je pense que c'est facile à s'en rappeler. Et donc, il faut vraiment l'aide de tout le monde. Comme on dit, partageons le tour. Faisons que cette journée fantastique soit une journée à impact. Le Tour de France aussi, c'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose de très gai. C'est un événement qui est très populaire, très accessible. Et ça correspond à ce qu'on veut faire. Alors, on est sur d'autres événements, bien évidemment. Mais le Tour de France, c'est très grand. Ça va être la fête. Comme ce qu'on fait, c'est une union qui s'est faite comme ça. Et oui, oui, le Tour de France, c'est très porteur. On va dans toute la France. Et puis là, on est en Mayenne avec l'étape du cœur. Ça nous permet aussi d'amener les célébrités dans des endroits et à chaque fois ils repartent en disant ouais, c'est trop bien, c'est sympa. Voilà, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse nous aider et que ça soit une vraie fête.
Différents packs de soutien existent pour les entreprises mayennaises. Vous pouvez retrouver les renseignements par mail à mathilde.villot@lamayenne.fr. Mais les spectateurs sont aussi invités à encourager les célébrités lors de leur parcours et à donner sur le site mécénat-cardiaque.org. On va parler justement de la journée nationale de l'accès au droit, c'est aujourd'hui le 25 mai, et on zoomera sur la mission de conciliateur de justice juste après Vampire Weekend avec Everlasting Arms.
Counseling came to ruin.
Vampire Weekend avec Everlasting Arms dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mai et c'est la journée nationale de l'accès au droit. À cette occasion, le CDAD, le Centre départemental de l'accès au droit de la Mayenne, organise plusieurs permanences téléphoniques avec des avocats, des notaires, l'association des victimes d'infractions pénales, mais aussi des conciliateurs de justice, des bénévoles chargés de régler à l'amiable des conflits entre les personnes. Zoom sur cette mission avec un conciliateur de justice expérimenté.
Alors, je suis Bruno de la Monneraie, le vice-président de l'Association des conciliateurs de justice pour la Mayenne et conciliateur depuis maintenant 12 ans pratiquement.
Conciliateur de justice, c'est une mission, je pense, qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal. En tout cas, en quoi ça consiste ?
Alors, le conciliateur de justice est une institution qui a été créée en 1978. Dans le but de désengorger les tribunaux. Le rôle du conciliateur de justice étant de faciliter des accords à l'amiable entre des parties qui ont tout type de litige ou de différends entre eux. Ça concerne tout le monde. Le conciliateur de justice intervient dans tous les domaines du droit civil. Dépendant du droit civil, il n'intervient jamais dans les conflits de droit dépendant du droit pénal. Donc tous les litiges de droit civil, à l'exception de tout ce qui concerne le droit de la famille, les divorces, droits de garde, pensions alimentaires, etc., qui doivent absolument passer par un juge. Donc là, le conciliateur de justice n'est pas compétent. Le deuxième domaine dans lequel le conciliateur de justice n'est pas compétent, c'est tous les conflits avec l'administration, au sens large du terme, qui, eux, dépendent du défenseur des droits, qu'on appelait autrefois le médiateur de la République.
Donc vous êtes conciliateur de justice depuis plus de 10 ans. Quelles affaires sont les plus fréquentes ? Quelles sont celles que vous avez le plus souvent à traiter ?
Alors là, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est assez variable, à la fois dans l'année, dans les secteurs, etc. Disons que, bon, il y a beaucoup de conflits dits de voisinage. donc les conflits de base, les branches qui dépassent chez le voisin, etc. Dans les conflits de voisinage, on y inclut aussi tous les conflits liés aux droits de passage. Les répartitions des terrains, le tour d'échelle, etc. Tout ça sont les conflits qui sont relativement fréquents. C'est en gros un tiers de notre activité. Ensuite, il y a tous les conflits liés au droit de l'immobilier. Les litiges entre propriétaires et locataires concernant les paiements. C'est, malheureusement, ça arrive assez fréquemment. Il y a tous les litiges liés à la restitution du dépôt de garantie, qui sont là aussi, pratiquement à chaque location, il y a un problème. Il y a tous les litiges dits de consommation, les litiges avec un artisan, que ce soit celui qui fait intervenir l'artisan pour non-respect des travaux, prestations non conformes à ce qui a été prévu, mais aussi venant de l'artisan pour non-paiement de ses honoraires, etc. Voilà. Et puis, de plus en plus, les conflits liés à l'e-commerce, où les gens se mettent devant Internet, achètent quelque chose et reçoivent soit des trucs qu'ils n'ont pas commandés, soit pas ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Enfin voilà, et là, c'est en fort développement dans les dernières années, et notamment dans cette période de pandémie où l'e-commerce s'est fortement développé et où les conflits aussi se sont fortement développés en parallèle.
Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rencontré ce problème et qu'on veut qu'il soit résolu, comment ça fonctionne très clairement ?
Dans notre jargon, on a ce qu'on appelle le demandeur. C'est celui qui vient trouver le conciliateur de justice, qui lui explique son problème. Et là, le conciliateur de justice prend contact avec la partie adverse, ce que nous appelons dans notre jargon le défendeur, pour avoir son point de vue à lui et sa version à lui. Car l'expérience montre que c'est pas forcément les mêmes versions qui sont présentées. Une fois que cela est fait, le conciliateur organise une réunion de tentative de conciliation où les deux parties sont présentes. Et là, c'est le rôle du conciliateur d'essayer de faire émerger une solution satisfaisante pour les deux parties. Alors, c'est là le rôle le plus important du conciliateur. Le conciliateur n'est pas là pour dire le droit. Le conciliateur est là pour essayer que les deux parties trouvent un accord. Alors, bien sûr, n'allant pas contre le droit, bien évidemment. Mais le conciliateur peut très bien se dire, tiens, oui, il y en a un des deux qui a raison. Son rôle n'est pas de prendre parti, mais de rester totalement impartial et de faire émerger, d'aider à faire émerger une solution. Sachant que une conciliation qui réussit est en général une conciliation où chacune des deux parties fait une partie du chemin pour éviter un procès qui dure du temps, alors que une conciliation, une fois qu'elle est réussie, les deux parties se quittent et le conciliateur établit ce que nous appelons un constat d'accord qui a une valeur de jugement.
J'imagine que dans les meilleurs des cas, ça peut aller très vite. Si jamais, au bout de cette réunion, il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui peut se passer ensuite ? Est-ce qu'il y a une autre réunion ou, du coup, c'est plus de votre sort et ensuite ?
Si les parties n'ont pas réussi à trouver un accord, alors il y a quelques cas particuliers où les gens disent « oui, je veux réfléchir, je veux vérifier très peu », mais c'est extrêmement rare. La tentative de conciliation ne marche pas, le conciliateur fait un constat de désaccord, et là, les parties peuvent, si elles le souhaitent, aller trouver, faire une saisine au tribunal pour confier leur litige au tribunal.
J'imagine que c'est assez rare, ou en tout cas que l'objectif, c'est d'éviter ça. Est-ce que ça arrive souvent, justement ?
En moyenne, les nombres de cas qui nous sont présentés, on arrive environ à 60% de taux de réussite. donc ce qui reste 40%, soit parce que les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord, soit, ce qui arrive aussi, une des parties ne veut pas une tentative de conciliation, c'est aussi des choses qui arrivent, ou au dernier moment ne se présente pas à la réunion qui a été prévue pour cette tentative. Voilà, donc c'est les cas de figure. Ce qui ne veut pas dire que les 40% restants se retrouvent automatiquement devant le tribunal. Il y a un certain nombre de personnes qui se disent bah, « Ok, avec, grâce à une conciliation, je vais peut-être trouver une solution. » Cette conciliation ne marche pas. Elle se dit « Bon, ça ne vaut pas le coup quand même d'aller au tribunal pour le montant qu'il y a en jeu ou ça me compliquera trop la vie. Donc, laisse tomber. » Donc, ça ne veut pas dire que les 40% obligatoirement se retrouvent devant le tribunal.
Au départ, comment est-ce qu'on devient conciliateur de justice? Est-ce qu'il y a une formation?
C'est une bonne question, d'autant plus que nous manquons. C'est une activité bénévole, donc nous manquons de candidats. Et l'objectif étant d'arriver à peu près pour la Mayenne à une bonne vingtaine de conciliateurs de façon à couvrir au mieux l'ensemble du territoire. Alors, pour devenir conciliateur, c'est relativement simple. Il suffit d'envoyer un CV et une lettre de motivation au vice-président du tribunal judiciaire de Laval. Alors, les critères pour devenir conciliateur sont relativement simples. Hein. Faut être majeur. C'est ne pas exercer de mandat électif au sein de la cour d'appel, c'est-à-dire les trois départements de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire, puisque nous dépendons de la cour d'appel d'Angers. Faire preuve d'une expérience juridique de 3 ans. Ça, c'est demandé par les textes. C'est pas le critère principal selon mon point de vue, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, que nous ne sommes pas là pour dire le droit, mais pour essayer de faciliter des accords. Le principal des critères, c'est avoir le sens du contact, avoir un certain sens de la synthèse, pour refaire la synthèse suivant les versions que nous avons de part et d'autre. Faire preuve d'impartialité, c'est extrêmement important. C'est pas toujours le plus simple d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit quelquefois que vraiment il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Donc rester impartial dans ces cas-là, c'est pas toujours facile. Et puis avoir un casier judiciaire vierge. Donc autrement, tout le monde est éligible à cette fonction à partir du moment où vous avez le sens de l'écoute. C'est déjà énorme. Et puis et aimer les contacts humains.
Quand on a des conflits comme ça à gérer, même si on ne connaît pas le droit par cœur, mais il y a quand même des textes sur lesquels il faut s'appuyer, j'imagine. Comment est-ce que vous vous tenez à jour aussi informé des éventuelles évolutions, par exemple sur un conflit de voisinage, s'il y a des changements des textes?
Nous avons l'association elle-même, ou par l'intermédiaire de l'institution judiciaire, nous avons des formations. Une partie de ces formations est établie par l'École nationale de la magistrature. Donc on a, sauf malheureusement depuis un an et demi à cause de la pandémie, nous organisons entre 3 et 5 journées de formation par an, justement pour tenir compte de l'évolution des textes, et puis une formation de base pour les nouveaux conciliateurs, pour leur apprendre à rédiger un constat d'accord, enfin les travaux de base et les missions de base du conciliateur, où chaque nouveau conciliateur a, dans les 6 premiers mois de sa présence parmi nous, une formation. Et puis nous avons mis en place depuis maintenant un an, c'est relativement récent, ce que nous appelons un tutorat, où tous les nouveaux conciliateurs ont un ancien conciliateur qui a un peu plus d'expérience comme tuteur pour l'aider justement dans ses démarches quotidiennes de conciliateur.
Dans toutes les affaires auxquelles vous avez pu être confronté, est-ce qu'il y en a une ou deux où vous n'auriez pas misé sur un accord au début et finalement ça aboutit à quelque chose, ou à l'inverse, quelque chose où vraiment c'était pas possible, vous sentiez que votre mission là, elle était limitée?
Oui, tout à fait. Là aussi, rien n'est prévisible. Comme vous le disiez, il y a des affaires qu'on sent très mal au départ en disant non, là, L'écart est trop important entre les deux points de vue, et puis on y arrive. Et à l'inverse, comme vous le disiez, des choses qui semblent évidentes, il y a une des deux parties qui bloque parce que il y a eu une phrase malheureuse du voisin ou parce que, etc. Ça arrive. Hein. On peut pas dire. Par contre, la base de votre question, c'est de dire est-ce qu'il y a des affaires dans lesquelles on se sent non. Comment dirais-je, pas apte à le faire. Cela aussi peut arriver parce qu'il y a des dossiers qui peuvent être relativement compliqués. Alors là, on peut bénéficier de l'aide d'autres conciliateurs plus expérimentés. On peut aussi avoir demandé l'aide du juge de référent, notre référent au niveau du tribunal judiciaire, en lui exposant le problème. Et puis, dans certains domaines plus techniques comme les litiges commerciaux qui dépendent du tribunal du commerce ou les litiges liés au droit du travail qui dépendent du tribunal des prud'hommes, où là, sur la Mayenne, nous avons nommé des conciliateurs un peu plus pointus dans ces domaines précis. Donc on ramène ces affaires-là vers ces conciliateurs.
Et pour contacter le conciliateur de justice le plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site web du CDAD 53 et vous pouvez même d'ailleurs prendre directement votre rendez-vous en ligne. On retrouve dans quelques minutes la chronique des archives du studio vidéo de Laval avec le petit teasing de Claire en début d'émission. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, il va falloir encore être un petit peu patient puisque c'est l'heure d'écouter Tame Impala avec Borderline.
We're on the borderline, caught between the times of fate.
Kampala avec Borderline dans l'AJT du local. Effectivement, nous sommes mardi 25 mai. Et aujourd'hui, on va retrouver notre rendez-vous qu'on avait abandonné pour quelques semaines. Mais j'en suis sûre, vous êtes contents comme nous de qu'il soit de retour. En tout cas, c'est notre rendez-vous au studio vidéo de Laval, Claire.
Et oui, c'est parti pour découvrir les trésors cachés de Laval, toujours accompagné de Stéphane Piau, le vidéaste de la ville. Aujourd'hui, on découvre un documentaire.
On va vous présenter un documentaire sur le Palais de l'Industrie. Donc, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes générations. Le Palais de l'Industrie a été démoli en 76, mais c'est un bâtiment qui était en lieu et place de RC, où il y a la salle polyvalente maintenant à Laval, où il y a tous les concerts et toutes les animations, les trois éléphants, Laval Virtual. On n'avait pas beaucoup d'archives, notamment sur ce bâtiment-là. Ce qui est assez paradoxal parce que ça a plu beaucoup aux Lavallois, mais il y a peu de gens à l'avoir filmé, sans doute parce qu'il était un peu dégradé, d'où sa démolition. Et donc, on a reconstitué le Palais de l'Industrie, vous allez voir dans le commentaire. Il se réveille, il nous remémore tous ses souvenirs. Et donc, c'est une balade virtuelle en extérieur du bâtiment, mais aussi en intérieur. Il s'y passait beaucoup de galas de catch, de galas de boxe, des matchs de tennis, des foires expositions. Donc les premiers avions, ou encore le plus insolite, les épreuves du baccalauréat, des cérémonies militaires, enfin vraiment, c'est là où tout se passait, les fêtes et cérémonies, les grandes inaugurations, c'était au Palais de l'Industrie. La façade de l'édifice, constituée de briques colorées, comme on peut le voir sur les images, c'était de la brique très orange. C'était une superficie de 3000 m² surplombée par une impressionnante verrière, hein, parce que c'était un bâtiment ancien. Le Palais de l'Industrie était à l'origine un pavillon de l'exposition universelle de 1900, qui était en lieu et place à Paris. Hein, et il est arrivé à Laval par le train, en pièces détachées, dans les années 1900.
Bonjour à tous, et qui que vous soyez, recevez mes respectueux hommages. Quoi ? Qu'avez-vous à me regarder comme ça ? Je ne suis pas une bête curieuse tout de même. Enfin, je dois bien avouer que pour les plus jeunes d'entre vous, ma silhouette majestueuse ne doit pas évoquer grand-chose. C'est bien dommage. Palais de l'Industrie, je fus pendant de longues décennies et joyau architectural de la place de RC d'avoir été, je me réjouis. Ma taille en imposait même à l'orgueilleux musée des Beaux-Arts tout proche. Qui plus est, même si notre vocation à tous deux était d'accueillir le public, il n'y eut jamais entre nous de vilaine jalousie. Nous sommes, comme qui dirait, des frères de lait. Nos inaugurations achevaient alors de compléter la grande et ambitieuse politique d'équipement public conduite par les élus de la ville tout au long du 19e siècle. Vous rendez-vous compte que nous fûmes autant désirés que la préfecture, l'hôtel de ville, la gare ou le théâtre. Par ailleurs, des céramistes se sont affairés pour donner à mes murs encore un peu plus d'éclat. C'est vrai qu'à la belle époque, Laval et les villes environnantes offrent à ces artistes, parfois renommés, la possibilité d'exprimer leurs talents sur des chantiers d'envergure. Entrez donc, franchissez sans crainte la porte principale et tendez l'oreille. Oui. C'est cela. Au milieu de ce vaste espace, il est encore possible de percevoir distinctement les sons d'événements s'y étant déroulés dans un passé plus ou moins proche. Dans les années 20, ici même, un certain Alain Gerbault, tennisman de renom, participa à plusieurs matchs exhibition avant de gagner le large à la barre de son voilier, le Firecrest, et d'achever sa vie dans le Pacifique, en suivant la course du soleil. Ne sursautez pas comme cela. C'était juste un souvenir furtif de la grande tempête de l'automne 1925 qui endommagea gravement ma toiture. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les réparations ont eu lieu depuis. Nous avons pris maintenant un peu de hauteur. Imaginez que ces emplacements de choix étaient autrefois âprement disputés par les spectateurs qui venaient assister en nombre aux galas de boxe organisés par le stade Lavallois. Gérard Leterme, Daniel Bertrand, et surtout Jean-Claude Boutier, futur champion d'Europe en 1971, surenthousiasmait les foules prêtes à s'enflammer à la vue de leur prouesse athlétique. Mon sort fut scellé lors du conseil municipal du 6 juin 1975. Et au printemps 1976, je disparaissais définitivement du paysage urbain lavallois. J'allais avoir 74 ans. Bien heureusement, grâce à vos souvenirs et à vos témoignages, je vis encore pour longtemps dans la mémoire collective des anciens et dans l'imaginaire des plus jeunes. et c'est sans doute le plus bel hommage que vous puissiez me rendre.
Bon, mais j'espère que ce petit voyage dans le Palais de l'Industrie vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain voyage. À bientôt.
Et on retrouve Stéphane pour une nouvelle chronique, cette fois-ci grâce à une archive retrouvée dans une brocante. Je vous laisse le suspense, rendez-vous mardi prochain.
À chaque fois, c'est incroyable quand même, hein, ces pépites que tu nous déniches avec Stéphane les mardis. On a hâte justement d'être à mardi prochain. On va parler d'un autre événement, alors pas forcément d'un lieu, mais en tout cas d'un événement emblématique de Laval désormais, le Festival des Trois Éléphants, qui forcément cette année se réinvente. Et on va détailler cette évolution cette semaine dans notre feuilleton. Pas de concert cette année, mais une exposition rétrospective au Jardin de la Périne. Et ce week-end du 29 et 30 mai sera dédié aux arts de rue, mais aussi, dès à présent, vous les avez déjà aperçus, j'en suis sûre, de grandes œuvres à retrouver un peu partout dans le centre-ville de Laval. Il y en a une que vous ne pouvez pas manquer, c'est celle de la place du 11 novembre au niveau des jets d'eau. Elle est signée Grand Géant et l'un de ses deux créateurs, Cédric Mautier, revient sur ce projet.
À la base, en fait, on nous a sollicité pour fabriquer un décor pour cette année un peu différent des autres années, c'est-à-dire de mettre en place quelque chose sur une place de Laval. On a choisi la place du jet d'eau, qui n'était pas notre premier choix, mais au final, on a voulu utiliser cet endroit en se disant que c'était un endroit un peu emblématique aussi bien de notre jeunesse, parce qu'on est Lavallois avec mon collègue Joe. Et c'est un endroit qui est un peu central, et pour le coup, on a décidé de transformer la fontaine du jet d'eau en cascade du jet d'eau, de faire un assemblage de bois et des bacs qui font monter l'eau, enfin des pompes font monter l'eau en haut de la structure et descendre tranquillement jusque dans le réceptacle. Les trois éléphants ont été plutôt malins cette année, c'est qu'ils ont décidé d'investir de l'argent dans la déco, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de festivals avec qui on travaille. On a décidé de leur fournir, de leur fabriquer des châssis en bois. Donc on les verra l'année prochaine, parce qu'à la base, on a commencé à modéliser avec des châssis en bois sur cette place-là, dans la cascade. Et en fait, ça nous plaisait pas. Et puis pour le coup, on a repris l'idée de la cascade via des œuvres d'art contemporain qu'on a déjà vues par-ci, par-là. Et du coup, on s'est dit, on va faire plutôt ça cette année. Ça nous paraissait plutôt logique. Et du coup, on a laissé nos châssis en bois sur nos palettes au stockage. Et comme ça, au moins, on a fait quelque chose qui nous plaisait plus. On aurait tous aimé voir Girls in Hawaii, Jane Birkin jouer dans les salles. Hein. Après, on est content parce qu'on a réussi à travailler. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait un festival, que ce soit ici ou ailleurs. Rien que de travailler, de se retrouver avec les amis, c'est déjà un bon point pour ça. Ça fait 10 ans qu'on est aux Trois Éléphants. D'habitude, on a un club à décorer. Il y a la troisième scène, celle qui s'appelle le Club Grand Géant. Donc il y a cette partie-là, on a souvent un bar à décorer, on a tout un environnement à décorer, et ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Là, c'est une installation qui est certes éphémère, qui est un peu plus petite, mais ça a été très rapide en installation, parce que c'est des matériaux qu'on maîtrise. Et en gros, ça dépend et du format du festival et de la masse de travail qu'il y a à faire, soit en atelier ou sur le montage. On a eu une fenêtre de tir, un peu comme nos amis d'Archicombi, l'année dernière, en septembre, il y a une espèce de moment un peu magique, là, en septembre dernier, où on a été faire un festival à Orléans, qui s'appelle Hop Hop Hop. C'était le seul de l'année. Après, au niveau de la perte d'activité, nous, on a préféré d'évoluer. On a eu la chance d'avoir un gros chantier l'année dernière. On a refait la décoration de la salle du Liberté. Et on a monté une entreprise parallèle à Grand Géant, qui nous permet de scénographier et d'inventer des choses qui ne sont pas forcément du permanence. Puis on a construit des choses en atelier, on n'a pas perdu notre temps.
On vous reverra de toute façon, j'imagine, aux Trois Éléphants en 2022 sur une édition un peu plus conséquente.
On espère, puis de toute façon, les 200 châssis qu'on leur a fabriqués, il va falloir qu'on les remonte. Donc, maintenant, on est sûr de revenir, je pense.
Comme Grand Géant, les œuvres de trois collectifs de déco sont à retrouver dans le centre-ville lavallois. Elvis Sainte-Co sur la promenade Anne d'Allègre, Chat sur le square de Boston et Archicombi dans la cour du Vieux Château. Demain, on prendra la direction du jardin de la Périne pour une très riche expo photo, vous l'entendrez. C'est désormais l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire, et aujourd'hui, et oui, tic-tac tic-tac, ça approche, on fait les dernières emplettes pour la fête des mères.
Et oui, grâce à maVilleMonShopping.fr, profitez de 10 euros offerts des 30 euros d'achat, et cela avec le code MAYMAMAN, M-A-Y MAMAN tout attaché, voilà le petit jeu de mots, et le code marchera seulement si vous achetez local, un moyen de soutenir nos commerçants et d'offrir un beau cadeau. Le code marche dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche.
et on peut aussi d'ores et déjà s'inscrire pour la course de radeaux Ofnijek.
La fameuse course d'objets flottants non identifiés, organisée par la Jeune Chambre économique, aura bien lieu cette année les 3 et 4 juillet. Le thème de la course est la liberté. Légère souplesse cette année, vous pouvez garder les décorations des années précédentes et ou afficher les couleurs de votre entreprise. De plus, vous pourrez présenter votre radeau en avant-première au niveau du pont de Saint-Jean-sur-Mayenne le 30 juin, jour du passage du Tour de France. Un bon moyen de savoir s'il flotte bien, par exemple, pour s'entraîner. Et si vous voulez commencer à le construire et vous inscrire, envoyez un mail à ofnijek53@gmail.com.
Merci beaucoup Claire, c'est bien noté. C'est aussi le dernier jour de notre concours Instagram pour remporter deux places de cinéma au cinéma justement Le Palace à Château-Gontier. Profitez-en, c'est le dernier jour avant que le tirage au sort ne soit fait demain. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur notre compte Instagram L'Autre Radio et de mettre les personnes avec lesquelles vous souhaitez profiter justement de cette réouverture des cinémas et donc de ce retour des films en salle. Vous pouvez toujours là aussi nous proposer et nous partager vos initiatives, vos infos en appelant notre répondeur au 09 70 40 59 40. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, on rappelle que cette émission sera très vite en podcast sur l'autreradio.fr. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local de ce mardi 25 mai. Merci beaucoup Claire, à demain.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde et à demain.
À demain évidemment pour le retour de l'Agité du Local. Mais à 19h, ne manquez pas le meilleur de cette émission justement avec les agités du mois. Ce sera suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Pause Classique. Nous on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.